Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, avant de commencer ce sermon, je reviens de Fatima, où nous avons fait un pèlerinage avec quelques jeunes. Et nous avons là-bas bien prié pour vous. Le message de Fatima est vraiment le message pour notre temps, pour sauver, sauver ce qui peut être encore sauvé. Les hommes n'ont pas écouté la Sainte Vierge, les hommes d'Église non plus. Mais malgré tout, la Sainte Vierge a retenu le bras de son Fils, mais elle ne le retiendra pas toujours. Et ce sera le sujet de ce sermon d'aujourd'hui. J'ai découvert ou redécouvert à Fatima les deux derniers mémoires de Sœur Lucie racontant la vie de ses parents. J'ai lu celui sur son père qui est une petite merveille et sur sa mère je suis encore au milieu de la lecture. Je vous recommande vivement ces mémoires de Sœur Lucie, ces récits sur son père, sur sa mère, sur la vie de sa famille, également sur la vie d'une chrétienté, d'un village chrétien. Et là aussi, il y a un enseignement pour aujourd'hui. Je vous en toucherai également un mot dans le sermon. J'ai rapporté donc plusieurs exemplaires de ces livres, autant que je pouvais parce que nous étions à bicyclette. Et vous pouvez donc m'en demander si vous le désirez. Je commence ce sermon. L'Église nous rappelle l'infidélité des Juifs et nous met sous les yeux les avertissements de notre Seigneur sur l'infidélité de Jérusalem. Il est évident que c'est l'infidélité des chrétiens que l'Église vise en nous donnant ces deux passages de l'Écriture sainte. Saint Jean Chrysostome fait remarquer que Saint Paul ne se donne même pas la peine de faire les distinctions. Il met tout au présent, tout concerne les chrétiens auxquels il s'adresse, sans faire de détails. Les Juifs avaient été l'objet des prédilections de Dieu. Dieu les avait sortis de la terre d'Égypte, qui symbolise le monde. Enfin, ce n'était pas qu'un symbole, parce qu'ils étaient vraiment en esclavage, et la vie n'était pas facile. Ils étaient au milieu des idoles, et c'est-à-dire, c'est vraiment le monde. Dieu les a toujours protégés, choyés même, et il les a fait sortir d'Égypte en envoyant Moïse, qui représente le Christ, bien entendu, en envoyant Moïse, en faisant de multiples miracles, en les protégeant par le sang de l'agneau pascal, qui annonce la mort de notre Seigneur sur la croix et l'Eucharistie. Et puis, ils ont traversé la mer Rouge. C'est un miracle extraordinaire que l'Église nous rappelle tous les samedis dans l'office le matin et que les Juifs chantaient très souvent, un miracle extraordinaire qui est peut-être matériel, passé à travers deux masses d'eau. Ça n'est pas très difficile pour notre Seigneur, pour Dieu de retenir les eaux, mais c'est la marque d'une grande prédilection de Dieu, d'une grande bonté de Dieu envers son peuple. Malheureusement, arrivé de l'autre côté, les Juifs ne resteront pas fidèles très longtemps. Et vous savez que ce seront des séries de révoltes, de récriminations, malgré tout le soin que Dieu avait pris d'eux, et notamment la manne qui les nourrissait et qui avait un goût qui s'adaptait à chacun de façon à ce qu'il n'y ait jamais de monotonie. La manne est la figure de l'Eucharistie d'une part, mais aussi de l'amitié avec Dieu, de la méditation, de la contemplation. Lorsqu'on est uni à Dieu, lorsqu'on pense à Dieu, lorsqu'on contemple Dieu, les mystères de Dieu, les œuvres de Dieu, c'est un goût toujours renouvelé, toujours nouveau, jamais lassant, au contraire, toujours nourrissant et bienfaisant. Donc Dieu se donnait vraiment à son peuple. Il se donne encore aujourd'hui vraiment à son peuple. Le peuple récrimina, tout d'abord, il y eut le veau d'or pendant que Moïse était sur la montagne à recevoir le mont Sinaï, à recevoir les commandements de Dieu. Encore une grande preuve d'amour de Dieu que les commandements, puisqu'ils sont les avertissements, les avis paternels de Dieu pour que nous puissions bien mener notre vie et gagner ainsi notre ciel. Alors, pendant ce temps-là, pendant que Moïse était sur le mont Sinaï, les Hébreux se révoltent, font un veau d'or, adorent le veau d'or, se mettent à danser et à chanter. Dieu se fâche une première fois, mais sans exterminer son peuple. Mais le peuple ne va pas profiter de la leçon et il y aura des récriminations parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de viande dans le désert alors qu'ils avaient la manne. Ils n'ont pas d'eau alors que Dieu voulait simplement les mettre à l'épreuve et pour leur montrer qu'ils ont eu tort de s'inquiéter, Dieu fit sortir de l'eau du rocher et saint Paul prend bien soin de nous expliquer que ce rocher, c'est le Christ, et qu'il nous apporte l'eau de la grâce pour nous désaltérer. Et puis, l'épisode qui est rapporté par l'Église aujourd'hui à la messe, c'est l'épisode où des Madianites, Balaam, un Madianite, envoie, c'est tout à fait vicieux, c'est même démoniaque, il envoie les plus belles filles madianites pour dévergonder les Hébreux, ce qui se passe, hélas, sachant que une fois que les Hébreux seront tombés dans le péché, Dieu les abandonnera et les Madianites pourront ainsi leur tomber dessus en étant certains d'avoir la victoire. Alors, étant donné cette révolte ouverte, Dieu se fâche vraiment et il dit à Moïse, tu prends avec toi les anciens du peuple et vous mettrez à mort tous les coupables que vous suspendrez à des croix, à moins qu'ils aient été tués par l'épée. En tout cas, tous les coupables sont mis à mort. Il y a un coupable qui l'est encore plus que d'autres et qui pour braver Moïse, c'est-à-dire pour braver Dieu, entre dans la tente d'une Madianite pour pécher au vu et au su de tout le monde. Alors à ce moment-là, Phinès, un Hébreu, fils d'Aaron, enfin descendant d'Aaron, son sang ne fait qu'un tour, il prend une épée, une dague, et il transperce les deux coupables. Dieu le félicite d'avoir ainsi vengé son honneur. La même chose se passe de nouveau avec ceux qui ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Seigneur pleure sur la ville de Jérusalem, puis il chasse les marchands du temple. Les deux choses évidemment sont liées. Si Jérusalem est infidèle, c'est parce qu'elle est tombée dans des préoccupations bassement mercantiles et matérielles. Alors, saint Paul termine son épître, Quistat videat necadat, celui qui se tient debout, qu'il prenne garde à ne pas tomber. Et Saint Jean Chrysostome fait remarquer que si Dieu s'est ainsi fâché envers les Juifs, combien plus se fâchera-t-il envers les chrétiens qui ont beaucoup plus reçu de son amour que les Juifs n'avaient reçu. Effectivement, nous avons non plus des figures, mais la réalité. Nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre chef, c'est-à-dire notre tête et qui nous guide. Il se donne lui-même à nous en nourriture dans la Sainte Communion. Il rend présent son sacrifice quotidiennement, peut-on dire, par la Sainte Messe. Surtout, la grâce nous donne une union profonde et pleine d'intimité et d'amitié avec Dieu. Malheureusement, le monde est encore là et les chrétiens se sont laissés attirer par le monde. Ils ont mis du temps, ça ne s'est pas fait du premier coup, et même lorsque la révolution aura bien pris le dessus, il restera encore malgré tout des habitudes profondément chrétiennes dans le peuple. On voit ça justement dans ces mémoires dont je viens de vous parler, de Sœur Lucie. Ça se passe en 1900 pratiquement, on peut dire, début du XXe siècle. Et il est étonnant de voir cette chrétienté vivante, profondément vivante et profondément chrétienne, au hameau d'Algilstrel, mais c'était la même chose dans tous les villages environnants et tous les villages du Portugal. Alors, pourquoi Jésus-Christ avertit-il? Pourquoi Jésus-Christ pleure-t-il sur Jérusalem devant ses apôtres? Pourquoi la condamne-t-il devant ses apôtres? Pourquoi agit-il ainsi? Pour deux raisons. La première, c'est d'avertir les coupables lorsqu'il est encore temps. Et nous ne savons pas combien de Juifs ont profité de cet avertissement divin. Mais nous savons que Dieu ne veut rien omettre pour sauver même les coupables. Et nous l'avons vu à Fatima, la Sainte Vierge apparaît, demande prière et sacrifice, et très certainement, évidemment, il y a beaucoup de gens qui se sont convertis grâce aux prières et aux sacrifices, des enfants de Fatima d'abord, puis des foules qui les ont suivis jusqu'à nous et jusqu'à vous également, mes bien chers frères, je l'espère. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est de rassurer les apôtres lorsque les choses viendront. Elles auront été annoncées, ils savent que le châtiment doit venir et ils ne seront pas désemparés. Au contraire, ils sauront à quoi s'en tenir. Si l'Église met ces deux passages de l'Écriture sainte dans la liturgie, c'est pour faire écho à l'avertissement de notre Seigneur, pour que nous aussi, tout d'abord, nous entendions cet avertissement, et deuxièmement, que nous ne soyons pas surpris, désemparés. Oui, il y aura des chutes. Le peuple élu, le peuple choisi, et le peuple choisi parmi tous les peuples choisis, c'est-à-dire l'Église, enfin, les gens d'Église, parce que l'Église elle-même est infaillible, mais les gens d'Église retourneront au monde, retourneront à la balayure et aux vices du monde, et Dieu les châtiera violemment, et il semblera que tout soit perdu, mais étant donné que c'est une prophétie, nous savons que Dieu n'abandonne pas son peuple. Il est évident que toute la crise dans l'Église, pas seulement celle dans la fraternité, mais toute la crise dans l'Église vient de cet amour du monde, ce désir de plaire au monde, c'est tout le libéralisme Le libéralisme est un vice de bons chrétiens qui veulent en même temps être de bons mondains et qui vont, comment dirais-je, manœuvrer, qui vont surtout refuser de voir la réalité pour arriver à sauver et leur honnêteté chrétienne, mais c'est une honnêteté du monde, dit Saint Grégoire le Grand, et en même temps l'honnêteté du monde, les deux honnêtetés, les sauver à la fois. Inutile de vous dire qu'il est normal que Dieu se fâche et se fâche fort. Cela a été le vice de l'Église, enfin des gens d'Église, et puis Monseigneur Lefebvre avait réagi, nouveau Moïse d'une certaine manière, lui-même n'a pas été entendu, n'a pas été suivi, et on voit bien que la crise de la fraternité Saint-Pédis est une crise d'amour du monde, de volonté de plaire au monde, en même temps que de ne pas déplaire à Dieu, essayer de gagner sur les deux tableaux. C'est le libéralisme le plus pur. Ne cherchez pas comment il s'explique, ça ne s'explique pas, c'est un vice d'amour du monde. De même que le veau d'or ne s'explique pas quand on sait que les Juifs, les Hébreux, avaient été si choyés de Dieu, si avaient bénéficié de tant et tant de miracles, et que Dieu vraiment les avait pris pour son propre peuple, quand on les voit si rapidement revenir aux idoles égyptiennes, ça ne s'explique pas, c'est vraiment du vice. On ne peut pas non plus expliquer, et c'est peut-être cela qui déroute quelquefois certains d'entre vous. On chercherait à comprendre pourquoi Mgr Felet, pourquoi Mgr Titienne Maleret, pourquoi l'abbé un tel agissent comme ceci, eux les héritiers de Mgr Lefebvre, etc. C'est triste à dire, ça ne s'explique pas, c'est un vice. Et pour clore ce sermon, qui était en trois parties, la première c'était les Hébreux, la deuxième c'est l'application à l'Église, et la troisième c'est nous-mêmes. Parce que, certes, nous devons être fiers d'avoir été choisis par Dieu, et il n'est pas question que nous diminuions, que nous amoindrissions l'honneur que Dieu nous fait. Les dons de Dieu ne sont pas à nous, ils sont à lui. Nous les avons reçus, il nous a choisis. C'est ainsi. Il n'est pas question de faire de la fausse humilité, mais il est question d'être sur ses gardes, car que celui qui se tient debout prenne garde à ne pas tomber. Et vous connaissez l'adage, celui qui se fie à soi-même se fie à un imbécile, celui qui s'appuie sur soi-même s'appuie sur un imbécile, et c'est ce que dit Saint Jean Chrysostome. Lorsqu'on a confiance en soi et qu'on oublie que c'est sur Dieu qu'on doit s'appuyer, alors on est quelqu'un qui se tient debout, mais qui n'est vraiment pas loin de tomber. Comment allons-nous nous appuyer sur Dieu? Deux choses, deux lignes directrices. La première, bien sûr, la foi, la charité, l'humilité. Et la deuxième, les œuvres de miséricorde. Saint Jean Chrysostome n'insiste pas sur la première ligne, mais plus sur la seconde. La première, la foi, c'est-à-dire être guidé. Je vous ai fait dimanche dernier un sermon sur l'esprit de foi, donc je n'y reviendrai pas. Mais si vraiment on avait toujours la foi devant les yeux, alors le monde apparaîtrait pour ce qu'il sait, pour ce qu'il est, il ne nous tenterait même pas. Nous le verrions dans son horreur, bien qu'il soit paré de peau de brebis, bien qu'il soit paré d'atours chatoyants et brillants, nous verrions très vite qu'il n'offre rien de désirable et d'agréable, de véritablement agréable. La foi va donc être un guide puissant. Et il faut que cette foi soit active, comme je vous le disais dimanche dernier, c'est-à-dire qu'elle est un critère de jugement. D'autant plus que cette foi est perfectionnée par les dons du Saint-Esprit qui nous font juger les choses. Le don de sagesse nous fait juger en fonction des principes les plus élevés. Le don de science nous fait entrer dans le concret de la vie, mais toujours avec le regard de la foi. Le don de conseil nous fait, enfin, perfectionne la prudence et nous fait juger les situations particulières qui nous concernent, toujours au regard de la foi. On a trois dons du Saint-Esprit qui sont des dons de discernement et qui éclairent, renforcent notre foi de manière à éclairer puissamment les situations dans lesquelles nous nous trouvons et montrer l'horreur du monde. La deuxième piste, si je puis dire, que nous devons suivre pour tenir et ne pas tomber, ce sont les œuvres de miséricorde. Évidemment, les œuvres de miséricorde spirituelle en premier, et c'est ce que la Très Sainte Vierge a rappelé à Fatima, prière et pénitence, où il y a d'autres œuvres de miséricorde, mais celles-ci sont peut-être les plus importantes aujourd'hui. La première de toutes, c'est enseigner la vérité, donc enseigner le catéchisme, dire la vérité, ramener les âmes à Dieu, remettre en lumière d'abord les vérités naturelles, et puis bien sûr, et aussi en premier, les vérités surnaturelles, les vérités de la foi. Ne nous arrêtons pas de prêcher. Dieu bénit ceux qui disent la vérité. La vérité a une force. Pourquoi elle a une force? Parce qu'elle vient de Dieu et que ce n'est pas nous qui donnons la force à notre prédication, c'est Dieu qui la donne et nous ne sommes que des transmetteurs. Si Dieu nous envoie prêcher, c'est parce qu'il veut que notre parole soit écoutée. C'est vrai pour nous les prêtres, c'est vrai pour les évêques. C'est vrai également pour les fidèles, les simples fidèles. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, il y a des connaissances, des vérités essentielles dont tout chrétien a la connaissance nécessaire et la garde obligée. Il y a un complément à la vérité, on ne peut pas prêcher la vérité sans préparer les cœurs, d'où l'importance de la prière et du sacrifice. J'en parlerai les 19 et 20 août à ceux qui viendront à la session de KISS. En attendant, vous pouvez tous mettre cela en œuvre. Vous, mes chers enfants qui m'écoutez, puisqu'il y a des enfants et pas seulement des parents à écouter ce sermon, eh bien, vous demanderez à votre père, à votre mère, de vous redire ce que je leur ai expliqué à eux. Et puis, vous leur demanderez de vous relire les mémoires de Sœur Lucie et les premiers mémoires dans lesquels elle raconte la vie de Jacinthe et de François qui ont si bien accompli les demandes de la Très Sainte Vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.